Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, je suis en compagnie de Laurence Croton qui hier, dans le cadre des rencontres de Luc, a donné une conférence ayant pour titre « Modigliani, érotisme, élégance et simplification formelle ». Quelques questions pour mieux connaître Laurence. Je crois que c'est toujours quelque chose d'intéressant à découvrir. C'est celui ou celle que l'on a rencontré, de savoir son itinéraire. Parce que bien souvent, nous en sommes bien loin. Donc, Laurence Croton, d'où venez-vous? Et comment ce que vous êtes devenu s'est formé à travers le temps?
Alors, à l'origine, je suis professeure de lettres depuis plus de 25 ans maintenant. Mais parallèlement à mon enseignement en littérature, j'ai effectué une thèse sur la modernité, alors en particulier littéraire, entre la France et l'Autriche. Et du coup, les mouvements d'avant-garde m'ont beaucoup intéressée. Et simplement par goût artistique, j'aime particulièrement la peinture. Et de ce fait, je me suis un petit peu auto-formée sur ces sujets, donc toujours dans cette période, on va dire, entre 1870 et 1930. Voilà.
D'accord. Là, on est déjà dans une période très contemporaine. Oui. L'itinéraire plus antérieur, je dirais, excellent élève, quelqu'un passionné par l'art, est-ce que l'art est déjà présent? La littérature en fait partie, bien entendu. Est-ce que c'est un itinéraire éventuellement familial aussi? Est-ce qu'il y a des origines familiales qui peuvent amener à s'intéresser à la littérature et à la peinture en particulier? On sait aussi que les parents sont aussi des sources d'émerveillement et d'éveil à un certain nombre de matières artistiques, entre autres, mais pas toujours, bien entendu.
Alors, moi, je dirais que ce sont plus les enseignants qui ont été des vecteurs d'intérêt pour l'histoire de l'art. En particulier, moi, je viens de la région parisienne, donc j'étais dans une famille modeste, et du coup, ce sont vraiment les enseignants qui m'ont donné ce goût. En particulier, j'avais une professeure d'histoire en cinquième qui nous a intéressés aux civilisations donc de l'Antiquité et autres, et qui nous a fait faire beaucoup de sorties et beaucoup d'analyses de tableaux, en fait. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux, justement, sur ce que je ne voyais pas dans les tableaux, en fait. Et j'ai une tante aussi qui aussi était intéressée, en particulier par les impressionnistes. Et je suis rentrée, en fait, dans cette période, dans le 19e siècle. Alors, j'adorais la littérature du 19e siècle, de toute façon. Et je suis rentrée dans l'impressionnisme grâce à ma tante, voilà, qui était une passionnée notamment de Monet. On est allé à Giverny très très souvent pour visiter les jardins de Monet, et du coup, je me suis intéressée à tous ces mouvements artistiques du 19e siècle. C'est comme ça que je suis rentrée, mais sinon je viens d'une famille modeste où l'art n'avait pas vraiment d'importance, et la littérature, c'était mon parcours personnel, on va dire. Maintenant, je le vois comme un parcours d'émancipation familiale, mais il n'y avait pas énormément ni de livres ni de tableaux chez moi.
Moi, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, à travers aussi des origines modestes. C'est aussi toujours quelque chose qui fait qu'on parcourt, ou on s'ouvre à quelque chose qu'on ignore la plupart du temps, à travers justement des lieux, en l'occurrence l'école. Est-ce que vous pensez que l'école aujourd'hui dispense une ouverture à l'art au sens général du terme? Littérature, art plastique, peinture, enfin bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une matière qui a sa juste place par rapport à des matières qui sont considérées comme les matières nobles, comme le français bien entendu, et les maths entre autres?
Non, malheureusement, hein, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est-à-dire que pour le collège, évidemment, ils ont l'initiation à l'art à travers une heure d'art plastique par semaine. Ils ont la musique une seule heure, mais pour avoir aussi deux enfants, deux adolescents, je suis bien placée pour savoir que c'est pour eux, c'est plus un cours de divertissement. Malheureusement, ils ne voient pas encore vraiment l'intérêt. Et puis une heure, je trouve que c'est très très peu. de l'histoire de l'art, ils en font à travers quand même les cours d'histoire, donc ils ont des analyses de tableaux ou de français, donc, mais je trouve que c'est, il y a encore beaucoup à faire, hein, c'est, alors moi je suis enseignante, et justement, j'essaye au plus, le plus possible d'amener mes élèves en sorties diverses et variées. Là, la semaine prochaine, je vais à l'Opéra de Saint-Étienne avec des élèves qui ne sont jamais allés à l'opéra, qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un opéra, et je trouve que c'est cette ouverture-là qu'il faut donner, que l'école doit donner, parce que pour la plupart des familles, ce n'est pas courant, voilà. Donc j'essaye de au maximum de privilégier les sorties, parce que moi je sais que c'est ça qui m'a conduite à une ouverture d'esprit, et c'est ça que, à mon avis, l'école doit faire.
Je me souviens, je ne pense pas que ce soit une anecdote, mais c'est Malraux, qui était bien sûr le ministre de la Culture du général de Gaulle, avait eu un projet qui n'a, je crois, jamais pris forme. C'était de rendre visible dans les établissements scolaires, je ne sais pas si ça se posait au niveau du primaire, mais en tous les cas du collège et du lycée, le collège étant naissant, mais en tous les cas le lycée existant, des représentations au format de différentes œuvres picturales qui auraient, je dirais, qui se seraient trouvées sur les murs des établissements. Je pense que cette chose-là n'a jamais pris forme, et je crois que c'était une idée qu'avec Paul Venn, qui était l'idée qu'en fin de compte, il n'y avait pas de nécessité de transférer une information par une voie hiérarchique qui est le professeur, les élèves, mais plutôt de créer un cadre, un environnement qui soit favorable à une sensibilité qui se développe au fil du temps. Parce que la question qui se pose aussi... je suis un adulte, la peinture est quelque chose de récent dans ma vie. Est-ce que à l'âge de l'adolescence, la peinture, et dans nos générations, c'est peut-être encore plus sensible, puisque les médias que l'on connaît avec le numérique les éloignent peut-être des formes picturales telles que la peinture. Est-ce que les jeunes que vous avez l'occasion de rencontrer, puisque c'est votre quotidien, est-ce que cette forme-là, c'est une forme auquel ils sont sensibles ?
Oui, si on leur donne les clés, justement, parce que ils sont dans un monde essentiellement effectivement visuel, donc des images, ils en mangent entre guillemets toute la journée, quasiment sur leurs ordinateurs, sur les smartphones, ils ne voient que ça, des vidéos, comme ils disent, et beaucoup d'images. Mais le travail artistique en général, ils ne savent pas du tout combien d'investissement il peut y avoir, investissement de temps, investissement de travail de matière, etc. Donc il faut tout un accompagnement justement d'expliquer qu'une toile ça prend des heures et des heures de travail, que la peinture effectivement il faut la mélanger. Alors évidemment ils ont eu des arts plastiques, on leur a montré quelques techniques, mais effectivement il faut on les accroche souvent en leur montrant le côté vraiment très concret justement, qu'ils ne voient pas juste quand ils voient juste l'image en fait, parce que là ce sont que des aplats sur un ordinateur, sur un smartphone, donc en plus c'est un tout petit format, on ne voit pas la somme de travail qu'il y a. Donc quand on leur explique tout le travail, ou quand on les emmène dans les musées et qu'ils voient un tableau qui fait 4 mètres sur 6 pour certains, là ils sont assez impressionnés. Donc et puis en leur expliquant qu'on soit adulte ou qu'on soit adolescent, quand on donne certaines clés pour analyser certaines œuvres, je pense que tout le monde est intéressé, soit par le caractère biographique du peintre, soit parce que justement techniquement on y trouve son compte, soit simplement le mélange des couleurs, il y a toujours des aspects qu'on découvre.
Oui, par rapport à ça, est-ce que la peinture n'est pas l'extrémité de la perception, je dirais, artistique ? Je veux dire par là, aujourd'hui dans tous les vecteurs de communication qu'on peut avoir, il me semble que la peinture, comme l'architecture, sont des choses qui se situent à l'extrémité. Pour des gens d'origine modeste, je dirais, aujourd'hui, on va dire, ça va passer par la radio, la télévision, le cinéma, éventuellement maintenant l'informatique, mais toutes les formes, je dirais, la littérature, mais la littérature étant à la frontière, hein, on va avoir des littératures très, très diversifiées, mais en tous les cas, la peinture, comme l'architecture, paraissent être un peu l'extrémité d'une culture qu'on peut saisir. Et je pense qu'il y a peut-être une réticence, alors c'était la mienne à une époque, une réticence de pousser par exemple la porte d'un musée ou d'une galerie. Comment pourrait-on et comment peut-on expliquer cela ?
Là, je n'ai pas d'explication unique. Je ne suis pas spécialiste de ce sujet. Pour avoir beaucoup discuté quand même avec des personnes dans les musées, ils se retrouvent avec les mêmes questions hein, que les enseignants. Comment faire venir tous les publics hein, dans les musées, pousser cette porte. Il y a un remarquable travail de médiation hein, maintenant qui est fait justement avec différentes solutions. Alors, ça peut être des outils technologiques, ça peut être emmener des groupes avec l'objectif de leur montrer juste des fleurs dans les tableaux. Voilà, je pense qu'il faut arriver toujours à trouver un angle particulier, rester modeste dans l'apprentissage, petit à petit, pour amener les personnalités qui en sont loin, effectivement, à y trouver quand même leur compte dans un monde qui va effectivement très vite leur donner des clés pendant peut-être une heure et leur donner juste le goût de revenir. Déjà, c'est déjà un grand objectif, je pense. Voilà. Mais je n'ai pas d'explication sur ce manque de curiosité sur de la, enfin, j'espère pas de la population en général, mais beaucoup de publics qui ont du mal avec les formes artistiques, que ce soit la peinture, la sculpture, l'architecture. C'est encore souvent associé à l'élite quand même, hein, c'est vrai. Ça, malgré l'éducation populaire, malgré l'enseignement depuis le plus jeune âge des arts plastiques, une heure de musique, comme je disais tout à l'heure, de l'ouverture par l'enseignement, mais ça reste quand même toujours un autre monde, c'est vrai. Donc, mais malgré, vraiment quand même, je trouve que les musées, même tous les dispositifs qu'on a, les dispositifs qu'on a dans l'éducation nationale, là je vois pour le lycée, hein, lycéen au cinéma, lycéen à l'opéra, lycéen au théâtre, il y a beaucoup de dispositifs qui sont quand même créés pour favoriser justement cette pratique. Après, on espère que ces adolescents, ces lycéens, ces collégiens vont continuer donc leur itinéraire, hein, mais ça c'est une autre question qui est la formation tout au long de la vie. Et la formation tout au long de la vie, elle est souvent assez utilitaire. Et du coup, on néglige, on va privilégier effectivement l'apprentissage de l'anglais parce qu'il y aura des clients anglais, et on va peut-être laisser effectivement de côté l'enseignement artistique. C'est un petit peu dommage, mais c'est peut-être un chantier reprivilégier, je crois.
Je me souviens de la parole d'un ancien conservateur du musée du Louvre qui disait une phrase, peut-être qu'on peut tous avoir en tête, mais lui la proférait, en disant, en fin de compte, regarder un tableau, c'est d'abord le ressentir, c'est-à-dire les affects, je l'aime, je ne l'aime pas, et puis une deuxième partie qui est une forme de rapport à une vision plus intellectuelle, et qui est la question pourquoi je l'aime ou pourquoi je ne l'aime pas. Donc est-ce que le fait qu'il me semble qu'on est quand même dans une société où l'intellect a une place plus importante, me semble-t-il, que le sensible, est-ce que ça, c'est pas aussi une difficulté? C'est-à-dire que les gens, je me pose la question de savoir si les gens ne s'autorisent pas à rentrer dans un musée ou dans une galerie pour contempler un tableau en se disant « mais qu'est-ce que je vais pouvoir en dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ?» Est-ce qu'on a besoin de dire ou de faire quelque chose avec la peinture?
C'est une grande question. Là, je pense que effectivement, il faut en passer par l'émotion. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, dont des adultes cultivés, qui vous disent il s'est trouvé une seule fois dans ma vie où j'ai eu une particulière émotion, comme une rencontre avec une personne, en fait. Mais ça ne se produit qu'une fois. Seulement, cette fois-là, elle est assez vertigineuse, comme j'imagine certaines personnes ont la foi, ont trouvé la foi un jour dans un lieu, ou particulièrement, il y a une dimension effectivement émotive assez importante. Mais pour arriver à cette émotion, quand même, il faut prendre le temps. C'est-à-dire, on ne peut pas, enfin rarement, se retrouver devant une église ou une architecture ou un tableau, effectivement, si on ne reste pas quand même un certain temps pour l'observer. Ça, donc, dans une civilisation qui va très vite, moi, je trouve que c'est ça qui manque. C'est-à-dire s'arrêter, prendre le temps d'observer et laisser venir à soi, effectivement, des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais quelque chose qui nous touche. Et après, la partie intellectuelle, je ne sais pas si on peut dire intellectuelle, c'est juste, pour moi, c'est de l'observation, simplement. Alors, évidemment, quand on a certaines connaissances sur, devant un tableau de Soulages tout noir, évidemment, certains vont dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste du noir ou un rectangle dans un... Qu'est-ce que ça apporte, ça? Mais il faut en passer par, est-ce que j'aime ce rouge? Est-ce que j'aime ce jaune? Comme quand je vais dans la nature, est-ce que j'aime cet arbre parce qu'il est particulièrement impressionnant, parce qu'il sera là bien après que j'existe aussi? Enfin, voilà, il faut arriver à trouver un angle, mais il faut surtout observer, c'est s'arrêter et observer et prendre le temps de l'émotion, ce qu'on a beaucoup moins maintenant, surtout avec les jeunes, effectivement, ou les moins jeunes d'ailleurs, hein, qui vont très vite et qui sont obligés d'être dans ce mouvement.
Oui, parce que je me disais qu'en fin de compte, la peinture représente une difficulté, par exemple dans les conférences, qu'on ressent moins avec la philosophie, l'histoire. C'est-à-dire que quand on parle de philosophie, on va parler du bonheur chez Spinoza, le bonheur, ça résonne en nous par rapport à une conception qu'on a du bonheur. Quand on va parler en politique, d'un contexte politique, on a tous des mémoires personnelles ou une vision du monde. La peinture, c'est quelque chose qui appartient à une histoire. Et je crois qu'on est peut-être, et je fais écho peut-être à ce que je ressens, un peu démuni par rapport à ça. C'est-à-dire on voit un tableau, mais... Où situe-t-il ? Quelle est la rupture ? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de telle à telle peinture ? Quelle est l'histoire véritablement de la peinture ? Je pense qu'on a peut-être ce besoin dont on se sent peut-être un peu infirme quand on regarde un tableau sans en avoir connaissance de cette histoire de la peinture. Est-ce que ça n'explique pas aussi peut-être cette réticence de ramener simplement, ce que vous disiez très bien, la peinture à un simple regard, à une simple sensation ?
Oui, je pense. Et puis moi, je ne suis pas spécialiste de peinture, hein, parce que je vous ai dit, j'ai une formation plutôt littéraire. Et pour moi, certains tableaux sont obscurs aussi. C'est-à-dire quand dans certains musées, on a évidemment des tableaux mythologiques ou des tableaux religieux avec des saints, des saintes, des épisodes bibliques dont on a quasiment oublié justement les clés maintenant. C'est difficile, effectivement, d'appréhension. En revanche, on peut être quand même sensible, effectivement, au paysage qui est montré, donc à l'émotion qui se dégage des personnages, aux lignes, effectivement, au profil. Voilà, déjà ça, en fait, si on l'observe bien, il y a quand même quelque chose qui est impressionnant. On parlait avec certaines personnes après la conférence d'hier, il y a des gens qui rentrent dans les tableaux parce qu'ils connaissent un petit peu le contexte, justement, sociétal, on va dire, sociologique. Hier, j'ai parlé de la Bohème Montparnasse, voilà, on rentre par ce petit bout aussi pour rentrer dans l'œuvre de Modigliani, puisque c'était notre propos. Ou bien il y a des gens qui vont ne connaissent pas grand chose à l'art moderne du tout, mais vont apprécier juste les profils féminins et simplement ou anecdotiques à travers la biographie. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que voilà, chacun y trouve un petit peu des résonances, soit dans l'aspect biographique, soit simplement cette effervescence cosmopolite du Paris, donc de la modernité. Et il n'y a pas besoin, je pense, d'énormément de connaissances d'histoire de l'art. Après, si on connaît de la technique, si on apprécie aussi, mais il faut rentrer. Il faut rentrer par une petite porte, et je pense que c'est comme tout art. Après, on se laisse porter ou pas par l'artiste et certaines de ses œuvres, parce qu'on n'aime pas forcément non plus tout l'aspect d'un artiste, comme on n'aime pas forcément tout Mozart. On a des préférences pour certains concertos, certaines symphonies. Voilà, c'est normal.
Oui, c'est cette sensation qu'on ne doit pas tout aimer. Et puis il y a quand même deux courants, on va dire la figuration et l'abstraction. Et donc il fait quelque chose qui parle. Ça, c'est un bateau. Effectivement, dans le cubisme, les gens ont du mal à penser qu'un bateau, c'est un bateau qu'on est en train de voir, même si le titre du tableau est un bateau. Il y a une période qui me paraît quand même assez... qui touche un peu toutes les personnes, je crois, même les gens qui ont peu de connaissances dans la peinture, c'est l'impressionnisme quand même. Que dire et pourquoi, de votre point de vue, et je reviendrai sur la littérature après, on finira sur la littérature, pourquoi cette période particulière, où c'est aussi l'ensemble de ces peintres touche autant de monde et dans toutes les parties du monde. C'est vrai que l'impressionnisme est quand même un courant très très puissant.
Alors même si c'était un courant qui, à l'origine, a défrayé la chronique, hein, puisque c'est impressionniste, hein, ça, je le rappelle, c'était vraiment pour se moquer hein, justement de ces peintres qui figeaient des impressions. C'était donc un courant révolutionnaire à l'époque, mais maintenant il est perçu comme complètement visible, c'est-à-dire compréhensible de tous. Et en fait, il y a plusieurs hypothèses. Hein. On peut surtout dire que ce sont des visions, là on rejoint la philosophie, ce sont des visions du bonheur. C'est-à-dire tout ce qui est représenté, ce sont des paysages de plein air, des arbres, de la mer, les variations de lumière, etc. Et des gens dans une société où tout semble aller bien. C'est-à-dire on ne montre pas évidemment les ouvriers, on montre certes certaines classes sociales, mais des jeunes femmes avec des beaux chapeaux, des élégantes, des figures voilà, dans des paysages essentiellement voilà, reposants. Donc je pense que ça plaît énormément parce que c'est une vision idyllique, c'est une vision de l'Arcadie, hein. C'est vraiment une vision du paradis avec beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, ce qui plaît. Dans un monde qui est peut-être effectivement perçu comme assez sombre, où on est envahi un peu par la technologie, où les paysages sont parfois obscurcis justement par des tours ou des... Donc là, même si certains impressionnistes hein, ont montré justement les gares ou ont montré justement que les paysages changeaient, ça reste quand même assez... assez beau dans des coloris qui ne sont pas agressifs. Et on est toujours dans le figuratif, comme on a dit. Donc le figuratif, pour la majeure partie des gens, c'est ce que les gens recherchent, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent comprendre d'emblée. Après, donc, quand on ira plus vers le pointillisme déjà, où là, on voit bien la touche de couleur avec des couleurs assez étonnantes, là il y a déjà un certain travail oculaire justement à faire pour ça. Mais je pense que c'est une vision voilà, arcadienne, c'est-à-dire une vision du bonheur, une vision où tout était ordonné, les classes sociales étaient ordonnées, chacun avait sa place, les paysages étaient magnifiques, ou en tout cas on les représente comme étant presque intemporel et heureux, et ça c'est une vision du bonheur qui à mon avis va se prolonger, que ce goût-là pour les impressionnistes est plaisant, voilà.
On pourrait poursuivre très longtemps, mais on va peut-être refaire lien avec la littérature, justement. Il y a une expression, d'ailleurs, qui me revient en littérature, on dit « dépeindre un personnage ». C'est quand même déjà lui mettre une représentation physique. Quels sont pour vous les écrivains qui ont, je ne dirais pas mieux parler de la peinture, mais qui sont les plus... qui sont proches de ça, en fin de compte, qui sont des gens qui arrivent à dépeindre, enfin, dans votre propre sensibilité, mais aussi dans votre analyse des choses. Est-ce qu'il y a des auteurs... Enfin, est-ce qu'il y a effectivement des romanciers, des essayistes, des gens qui, peut-être des romanciers plus particulièrement, des gens qui ont donné, ou qui vous ont donné à penser qu'ils étaient, qu'il y avait véritablement une représentation picturale? On sait très bien qu'en lisant un livre, bien souvent des images nous viennent, et souvent la déception qu'on peut avoir, par exemple, quand une œuvre, un roman est porté à l'écran, la déception qu'on a à voir... Le jaune premier n'ayant pas du tout le physique de ce que l'on imaginait. Voilà.
Alors moi, je suis plus spécialiste du 19e siècle. Alors du coup, effectivement, il y a énormément d'écrivains qui étaient des critiques d'art en même temps. Donc, on va dire Baudelaire, de toute façon, était un poète, mais aussi un critique d'art. Donc, les vrais écrivains qui ont vu, effectivement, les œuvres du 19e siècle, ce sont des écrivains qui écrivaient aussi pour les journaux. Aujourd'hui, enfin, le maître, on va dire, ça reste toujours Proust, hein, parce que Proust a décrit justement, à travers son personnage d'Elstir, là, donc le peintre, il a décrit justement merveilleusement bien certains paysages, certaines personnes. Donc c'est l'écrivain de référence, ça reste toujours Proust, hein, pour ceci. Après, donc aujourd'hui, je ne connais pas tous les écrivains, mais celui qui donne à voir véritablement le travail artistique, à mon avis, dans une langue qui n'est pas trop littéraire ou trop esthétique, c'est Charles Julliez. En fait, je ne sais pas si vous le connaissez, il n'est pas très loin d'ici, qui a écrit quelques ouvrages sur des peintres qu'il appréciait, qu'il a connus, donc c'est plutôt Charles Julliez, à mon avis, ou des gens comme Michel Butor, hein, qui aussi a fait beaucoup d'ouvrages artistiques avec des livres d'artistes, avec des artistes, et il a écrit beaucoup là-dessus. Mais des romanciers alors après, il y a des ouvrages de vulgarisation, on va dire, de sur certaines périodes, mais à ma connaissance, il n'y a pas de romancier particulier. Là, ça ne vient pas à l'esprit qui aurait écrit. Et moi, particulièrement, l'historien que j'aime beaucoup, c'est Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, il a écrit, il est spécialiste des couleurs, et il a écrit donc bleu, rouge récemment, et j'aime beaucoup son approche parce qu'elle est à la fois historique. On apprend beaucoup de choses sur les mélanges des couleurs, les teinturiers au Moyen-Âge, et justement les notations différentes des couleurs au fur et à mesure du temps. Et ça m'intéresse beaucoup parce que, par exemple, le bleu est devenu une couleur dominante, on sait, depuis quasiment le XXe siècle, tout le XXe siècle, et encore aujourd'hui, c'est quasiment la couleur préférée, pratiquement internationalement. C'est d'une couleur qui n'est pas perçue comme froide, et pourtant, si on remonte déjà au Moyen-Âge, c'était une couleur qui n'était pas appréciée. Donc il y a toute une évolution des mentalités face aux couleurs, et cette approche-là, oui, m'intéresse. Donc c'est plutôt les historiens qui parlent le mieux, je trouve, de la peinture pour certaines approches, mais c'est peut-être parce que moi j'aime bien aussi l'approche historique ou même philosophique ou sociologique, pas seulement justement esthétique, en fait. Et voilà un petit peu ce que je peux faire comme réponse.
Pour rebondir là-dessus, je me dis, est-ce que pour fréquenter le métro parisien de temps à autre, la plupart du temps, le noir, le gris, le marron dominent. Est-ce que si on vivait dans des sociétés plus colorées, les affaires que l'on porterait, en parlant, là j'ai un pull rouge, vous avez un pull bordeaux, voilà. Et si nos cités aussi faisaient apparaître il y a certains pays où les maisons sont fortement colorées, chez nous c'est une pratique qu'on voit peu, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une autre vision du monde et que la peinture aura une autre place, c'est-à-dire la peinture des musées, enfin des musées. Ça, c'est pas les musées. Il y a énormément de gens qui m'écoutent, qui sont peut-être des peintres occasionnels ou des peintres du dimanche, comme on disait. Est-ce que s'il y avait effectivement une réalité de la couleur qui soit plus prégnante dans nos villes en particulier, est-ce que ça changerait le monde? On sait par exemple que dans les cités, mettre des arbres aurait tendance à évacuer une partie de la violence. Pas totalement, pas l'éradiquer certainement, mais en tous les cas de créer un contexte plus favorable à l'échange. Donc, je reviens à cette question de la peinture, de la peinture et surtout de la couleur dans la cité et dans le métro, pourquoi pas.
Oui, c'est sûr, je n'ai pas fait tous les métros, mais d'après ce qu'on m'a dit, effectivement, à Moscou, on a un métro avec certaines œuvres d'art qui sont reproduites, avec des choix colorés, hein, justement. Alors, je ne sais pas si ça favorise quand même les échanges, mais en tout cas, c'est beaucoup plus agréable que le métro parisien qui est vraiment très, très vieux. Après, sur les cités, évidemment, hein, ça fait partie de toute façon des projets architecturaux. Depuis la fin du 19e siècle, ça a été mis en place dans certaines villes, comme que je connais bien, il y a eu des cités, hein, qui ont été colorées, entre guillemets, pour pouvoir favoriser justement une certaine vision de l'esthétique et en tout cas peut-être un savoir-être ensemble. Moi, je pense que quand même, c'est quelque chose qui existe actuellement, alors à travers toutes les formes de street art, en fait, les arts graphiques avec des reproductions parfois d'œuvres, de Van Gogh, etc., puis des créations beaucoup plus contemporaines ou mettre en valeur des personnages comme Nelson Mandela, etc., mais en reproduction. Donc sur les murs comme ça, je pense que ça c'est une évolution positive, en fait, les gens s'approprient les murs pour les faire parler, et ça c'est ça qui je pense qui est une évolution qui est une approche aussi de l'art différente et intéressante. Voilà, c'est pas forcément coloré, ça reste parfois, mais en tout cas, c'est une approche que les gens comprennent peut-être davantage et qui permet de parler, en tout cas, sur, voilà, parler sur les murs, parler autour des murs. Et je crois que dans plusieurs villes maintenant, c'est vraiment un mouvement de masse. Peut-être qu'on l'a pas encore analysé, mais je pense que ça va venir, en fait, parce que là, on est en plein dedans.
Oui, et puis pour rebondir, peut-être pour terminer cet entretien, il y a, en fin de compte, le street art nous ramène à quelque chose qui a toujours existé, qui est l'art brut, c'est-à-dire, en fin de compte, que la culture, ça se fait, ça se regarde, ça se pense, mais aussi ça se fait. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui devrait être peut-être, on revient au milieu scolaire, quelque chose où l'expérience soit plus présente. On sait qu'en Angleterre, par exemple, le théâtre est dispensé de manière obligatoire. Alors, je pense que tous les élèves ne l'apprécient pas, mais en tous les cas, ça peut peut-être créer des personnalités qui sont plus ouvertes sur la création. Se mettre en jeu, c'est quelque chose qui rebat les cartes de ce que l'on est. Ça nous fait découvrir des univers que l'on n'imagine pas pouvoir aborder. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, la manière... Alors, je ne sais pas comment se passent les cours d'art plastique, mais est-ce que la liberté de voir, c'est aussi la liberté de créer? Ce sera peut-être ma dernière question.
Oui, alors c'est évident qu'il faut en passer par la création, surtout pour les enfants ou les adolescents. Tant qu'on n'a pas expérimenté soi-même avec ses mains, je pense qu'on n'arrive pas vraiment à concevoir comment on passe effectivement d'un travail manuel à après une esthétique. Hein. Je pense qu'il faut développer. Alors je ne sais pas si on est dans le bon moment parce que ce qu'on appelait les classes à horaires aménagés ou bien les projets d'activités artistiques, etc., ont plutôt disparu. Hein. Donc, c'est difficile de convaincre les gouvernements plutôt de favoriser effectivement la culture. Heureusement, il y a des enseignants qui se battent pour avoir des petits budgets et pouvoir faire avec ceci. Mais c'est vrai qu'il y a des pays qui ont fait des choix, comme vous le dites, de peinture. En Autriche, que je connais bien, c'est l'obligation d'apprendre deux instruments depuis le plus jeune âge, avec des cours de musique tout au long de la vie. Tout le monde maîtrise la musique, tout le monde maîtrise le solfège. Donc c'est un choix politique depuis des années. Hein, donc, et même mes autres, on parlait ce matin de Cuba, qui avait simplement dans les usines où les femmes font les cigares, roulent les cigares, eh bien il y a des conteurs depuis toujours qui leur lisent du Maupassant, du Zola, etc., ou du Victor Hugo. Et ça a contribué politiquement à faire une conscience à la fois de littérature et politique aussi. C'est vrai qu'on reparlait récemment de Victor Hugo. Les Misérables étaient appris dès l'école, même si c'était par fragments, mais tout le monde connaissait Victor Hugo. C'est important d'accorder une place, effectivement, pas seulement au patrimoine, mais à la pensée qu'il y a derrière, justement. Voilà.
Je pense qu'on pourrait poursuivre cet entretien de longues minutes encore. Bien, ben nous allons le clore. Merci Laurence de cet entretien, merci de cette conférence. Et puis maintenant, je souhaite que tous ceux qui viennent entendre cet entretien ben maintenant se tournent vers la conférence que vous avez donnée hier. Et ben je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain interview autour de notre prochaine conférence qui aura lieu le 30 mars et qui viendra nous parler des totalitarismes. Un autre univers, la peinture et les totalitarismes, ce sera aussi un sujet éventuellement de conférence, peut-être dans les mois ou dans les années à venir. Merci, à bientôt.
Hey, the bird.
L'interview du jour.